France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean-Michel Beignet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste pour parler d'un petit livre que vous avez fait paraître à la fin de l'année dernière chez Hermann et qui s'intitule « N'être plus qu'un objet, la tentation d'oublier la vie ». Vous êtes philosophe, spécialiste de la philosophie des techniques et vous avez beaucoup réfléchi à ce que les sciences et les techniques faisaient à la vie. L'améliorer souvent, l'aliéner également. Votre pensée, votre place à l'Union rationaliste et à Raison présente nous sont d'autant plus précieuses que vous n'êtes pas un philosophe dogmatique et que votre pensée n'assène rien, elle analyse avec prudence et finesse les ambivalences de l'humanité. Dans ce livre-ci, comme dans les autres, je pense notamment à ce livre de 2012 que j'ai beaucoup aimé, « L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile » ou « Le sport trop vite, trop haut, trop fort », autant d'ouvrages que je mets dans la bibliographie sur les sites de France Culture et de l'Union rationaliste. Vous faites œuvre de philosophe, mais d'un philosophe qui écrit très simplement, rendant par exemple pour le livre qui nous occupe aujourd'hui, la lecture de Gilbert Simondon, de Gunther Anders, comme celle de Platon, de Kant ou d'Adorno et Horkheimer, accessible, voire facile, ce qui est fort. Alors ma première question, qui elle est difficile, porte sur ce premier moment de votre texte, après un très brillant avant-propos où vous citez un texte de Julio Cortázar sur la montre. Après votre très claire introduction, vous en venez dans un premier chapitre intitulé « Des choses et des objets, une dignité non partagée » à une tentative de classification des objets, ce qui est vraiment une tâche difficile, en les enserrant entre les choses et les machines et en rappelant l'ampleur lexicale que l'inventaire surréaliste des objets imaginaires ou des objets trouvés ou des objets réels et symboliques laissent à penser. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur cette enquête liminaire ?
Oui, ben vous prenez l'ouvrage par le chapitre le plus difficile, il faut bien le dire. Un chapitre dans lequel j'ai eu effectivement à cœur d'éclairer les concepts, d'éclairer un petit peu les choses. Auparavant, effectivement, dans l'introduction, je suis allé un petit peu au cœur de mon ambition, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment la possession des objets nous impose des obligations qui peuvent finir par nous enchaîner.
Vous pensez notamment au portable ?
Je pense au portable, mais effectivement, dans l'introduction, j'évoque la montre, hein, la montre qui vous est offerte pour votre anniversaire et qui, du coup, va vous créer l'obligation de la surveiller, de ne pas vous la faire voler, de ne pas l'abîmer, et puis qui va vous imposer une temporalité souvent obsessionnelle, etc. Donc cette montre, elle vous ligote. Bon, mais ce chapitre qui vous a attiré, intitulé des objets, des choses et des objets, il est destiné à savoir de quoi l'on parle au juste.
Bien sûr. Hein,
et je m'efforce de distinguer entre la chose et l'objet. Mm-hmm. La chose qui est plutôt une réalité floue, approximative, alors que l'objet est toujours le résultat d'un découpage spatio-temporel. On l'identifie dans le temps et dans l'espace. On le définit conceptuellement, donc par son extension, par sa compréhension. Il est le produit d'une construction. On s'intéresse, quand on est psychologue, à la construction de l'objet chez l'enfant, etc. Donc, rien à voir avec la chose.
Avec son indétermination. Hein,
avec l'indétermination de la chose, mm-hmm. Non, il n'a pas grand-chose à voir. Et je cite à plusieurs reprises Dagonier, qui fut mon directeur d'agrégation, comme à beaucoup de philosophes de notre génération.
C'est impossible de ne pas rencontrer Dagoniev.
Voilà. Et qui disait très bien, la chose est sans histoire, alors que l'objet, lui, concentre toujours une histoire. Hein. Si vous prenez une simple chaise, c'est l'exemple qu'il prend, la chaise renvoie à notre conception du corps, elle renvoie à notre législation du travail, elle renvoie aux préoccupations ergonomiques, elle renvoie au design du moment, etc. Elle est vraiment un condensé d'histoire. Il définit l'objet comme un nœud de relation, hein, ce qui n'est pas du tout le cas de la chose qui, elle, est toujours sans résistance. L'objet, c'est un autre qui m'est objecté, hein, comme le dit très bien le langage, objecté. Il est jeté devant moi et il me défie d'une certaine manière, comme un autre peut le faire. Et de fait, l'une des préoccupation que j'ai dans ce livre, c'est d'expliquer comment on peut faire ami avec les objets. Faire ami avec les objets, bah, ça signifie d'abord essayer de surmonter son étrangeté. Hein, c'est faire de l'objet sa chose, essayer de faire de l'objet sa chose. Et l'objet, bon, avec lequel on fait ami, on peut aussi bien l'abandonner. On peut aussi bien le brutaliser, on peut aussi bien le reléguer dans un grenier ou faire comme les enfants avec leur doudou, le mettre en pièces. Hein. Mmh. Donc, l'objet a un statut qui est d'emblée affectif, hein, parce que il est d'une certaine manière l'objet d'une conquête. Hein. Et cette conquête, eh bien, nous donne implicitement des droits. Alors, ce qui est un peu difficile peut-être dans ce chapitre, j'en préviens les auditeurs, c'est la référence à Heidegger que je suis conduit à faire, puisque Heidegger a écrit sur la chose. Hein,
Qu'est-ce qu'une chose,
et dans ce texte, eh bien, il révèle que pour lui, l'objet est toujours de l'ordre du contingent, hein, du négligeable, de l'ontique, comme il dit. Mm-hmm. Hein, alors que la chose, elle, nous questionne et nous porte peut-être à avoir avec elle une approche poétique. Et pas conceptuel. Hein, le concept enfermerait la chose. Hein, la métaphysique, donc, qui pratique avec des concepts, a une perspective toujours réifiante, hein, enfermante. Alors que la chose se prête plutôt à une démarche poétique qui convient tout à fait à Heidegger, puisqu'il voit dans la chose peut-être l'occasion de poser des questions qui permettraient peut-être de renouer avec cette fameuse question de l'être dont il a la conviction qu'elle a été occultée par la métaphysique platonicienne notamment. Dans ce chapitre aussi, précisément, puisque je parlais d'approche poétique, j'invoque Francis Ponge, qui me paraît vraiment tout à fait adéquate. Hein, le parti pris des choses, prendre le parti des choses, eh bien, c'est d'abord dégager les objets de leur fonction utilitaire. Ce que font les surréalistes à l'époque où Francis Ponge écrit, et essayer de casser le face-à-face du sujet et de l'objet. Hein. Prendre le parti des choses, pour Ponge, c'est décrire l'objet comme absence de l'humain. C'est essayer de faire en sorte que l'objet ne soit plus tributaire de la perspective que l'humain a sur lui.
Oui, vous analysez l'huître en ce sens.
Par exemple.
Et ce qui est très intéressant dans cette analyse, c'est que vous expliquez que Ponge n'évoque pas le fait qu'elle soit comestible.
Absolument pas. La relation avec l'humain gourmand
a disparu.
Elle a disparu, hein, vraiment. C'est... Et puis je crois me souvenir, enfin je suis certain, dans mon livre, j'évoque aussi Baudrillard un petit peu sur le même mode. Hein, Baudrillard qui faisait, surtout à la fin de sa vie, de la photographie, en essayant de donner à voir des objets sans qu'on puisse imaginer qu'il y a eu une perspective du photographe sur lui, que cet objet finalement jouit de son autonomie intégrale. Hein, il est absence de sujet.
Alors, autant on comprend bien les choses, si on n'est pas dans la perspective de Ponge, sont dégagées ou peuvent être parfois dégagées du rapport à l'humain, autant l'objet, non. Mm-hmm. Et c'est dans ce rapport affectif, être ami ou non, et vous faites alors référence à Simondon magistralement, que les objets nous interpellent, si on peut...
Oui.
Si vous me passez cette formule quand même. Et ce que vous avez en tête dans cette enquête, car votre livre est une enquête, me semble-t-il, c'est de penser quand même ces objets si spécifiques dont nous avons parlé, les smartphones par exemple, qui font fi des limites ou des oppositions traditionnelles des vivants et des morts, de la temporalité, de l'ustensilité.
Mmh. Oui, les objets techniques, d'une certaine manière, ont tous en commun de vivre de leur propre fonctionnement. Ils sont indifférents. Ils sont indifférents aux humains qui vont de plus en plus leur envier leur performance, leur envier leur résistance. Cette résistance qui les rend quasi immortels à nos yeux. Donc l'objet technique est un objet qui humilie d'une certaine manière notre perspective humaine.
Parce que eux, ils résistent au temps bien plus que nous.
Ils résistent assurément au temps. Ils sont toujours réparables. Ils sont relativement inoxydables. Ils ont effectivement l'avenir de leur fonctionnement. Et leur fonctionnement, il est le produit de démarches qui ne sont pas sujettes aux faiblesses de l'humain.
Donc, oui. La tentation d'oublier la vie, ce qui est le sous-titre de votre ouvrage, c'est que nous devenions des objets, si je comprends bien, que nous voulions tellement coïncider avec eux, fusionner avec eux, calquer nos comportements sur eux, que nous n'arriverions plus à cultiver ce que nous avons d'unique ou de spécifique ?
Oui, assurément. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, cette espèce de fantasme qui consisterait à fusionner avec l'objet pour s'accaparer ses propriétés, et ses propriétés qui en font une entité immortelle. Les objets techniques, effectivement, sont des supports de fantasmes lorsqu'on ne les dévalue pas a priori, il réveille quelque chose comme un animisme. Ce qui est la caractéristique des objets techniques dont nous sommes contemporains, c'est qu'ils deviennent impossibles à comprendre. Et c'est ça. Hein, et faire ami avec les objets, c'est pouvoir comprendre ces objets.
Oui.
Les spécialistes d'intelligence artificielle appellent ça l'explicabilité, et l'explicabilité est devenue un défi pour les humains, mais on ne relèvera pas ce défi. Et alors, quand on a affaire à un objet qu'on ne peut plus expliquer, on l'idolâtre, soit on le diabolise. Si on l'idolâtre, s'expose à se soumettre à cet objet aveuglément. Et le désir de fusion, c'est une manière de vouloir abolir la distance avec lui, avec cet objet que néanmoins on ne comprend pas. Et cet animisme, cette régression animiste nous conduit éventuellement à accepter ou même à vouloir, à désirer se comporter comme ces objets. Hein, donc une espèce de de tentation de mimétisme avec mmh. les objets. Mmh. Donc se plier à leurs contraintes, hein, c'est une chose, mais c'est également vouloir complètement fusionner avec lui. Hein, mmh. Donc,
alors, la distance nécessaire que oui. vous semblez indiquer à la fin de votre livre, dans un très beau chapitre, qui rappelle l'article que vous aviez destiné à Raison Présente dans Rire malgré tout, c'est de rire. Hein, c'est de maintenir l'humour et le ouais. rire face aux objets. Vous rappelez Tati, vous rappelez Nietzsche.
Ben oui, devant cette offensive des objets qui nous boudent, enfin qui nous ignorent, comment réactiver quelque chose d'humain ? Mm-hmm. L'objet intelligent tend à évacuer ce qu'il y a de plus humain en nous. Hein. Nous sommes avec les objets, avec les machines, des êtres réactifs et non plus des êtres réflexifs. Nous avons affaire à des automatismes qui nous conduisent à dévaluer notre conscience. Et le rire me semble être l'une des réactions.
Hein, réponses.
Ou une des réponses hein, qui permet une espèce de baroud d'honneur, peut-être, dans ce contexte de généralisation des objets.
C'est sur le rire que nous allons clore cette émission, Jean-Michel Beignet. Je vous remercie.
Merci, Emmanuel.
Je renvoie au site de l'Union Rationaliste où vous pourrez retrouver, un, la bibliographie de Jean-Michel Beignet, nos ouvrages et nos publications, notamment ce numéro de Raison Présente sur le rire. Je remercie Philippe Baudouin, Éric Perruchot-Triboulet, Claire Poinsignon pour le site de France Culture, Nathalie Comte pour le site de l'Union Rationaliste et je vous dis au mois prochain.